Bonjour mes frères et sœurs, il y a longtemps que je n'ai pas passé vous voir. Je suis toujours heureux d'être parmi vous. Votre accueil est très chaleureux, très fraternel. Et vous avez une place spéciale dans mon cœur, parce que c'est mon 43e année en tant que missionnaire en France. Et je passe chez vous depuis 43 ans. J'ai commencé en 80. Et donc je suis vraiment dans la joie de me trouver avec vous et de voir qu'il y a des hommes présents. Vous avez remarqué, pour l'école de dimanche, il y avait 6 omelettes, des garçons, et un jour, 6 omelettes deviennent des hommes. Ça, c'est ma manière de taquiner des jeunes hommes à la faculté de Jean Calvin, parce qu'ils sont plutôt des omelettes que des hommes. Ils n'assument pas les responsabilités encore. Et donc, je lance avec eux des concours. Qui peut deviner tel type de concours, un homme de 76 ans, pour lancer à des hommes de 25 à 30 ans? Je vous écoute. Un concours de pompes, bien entendu. Patrick, tu m'as vu faire des pompes. Comment? À la Bessède, exactement. C'est ma manière d'entrer en contact avec des garçons, des jeunes hommes. Et par la grâce de Dieu, il me donne la force de faire quelques-uns. Alors, ce matin, j'ai le privilège de partager avec vous la parole de Dieu. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles, le livre de Genèse, le premier chapitre, à partir de verset 26. Genèse 1, 26. Nous disons, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Il y a un retour là, très fort, sur le micro. Je dis, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il a créé à l'image de Dieu. Homme et femme, il les créa. Dieu les bénit et dit, Dieu leur dit, soyez féconds. Multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et tout animal qui rampe sur la terre. Et un peu plus loin, verset 31, Dieu vit alors tout ce qu'il avait fait et voici, c'était très bon. Il y a eu un soir et un matin, ce fut un sixième jour. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu, je vous invite à la prière. Seigneur, on vient de lire un passage qu'on connaît très bien. Toi, le Créateur, tu as créé par la puissance de ta parole. Ça nous dépasse. Nous ne comprenons rien. Mais nous confessons que tu es notre Créateur. Et bien qu'on ne peut pas comprendre les détails, nous avons confiance que tu connais tous les détails dans tous les domaines de la vie. Et parce que tu es vraiment infini, tu es grand. Ce matin, Seigneur, nous venons d'entendre ce que l'Esprit a nous dire. Et pour cela, on a besoin que tu nous renouvelles notre intelligence, que tu poses nos cœurs d'être attentifs et que tu transformes notre volonté de le mettre en pratique. Ainsi, en sortant d'ici ce matin, on se trouvera un peu plus semblable à toi. Pour ta gloire et pour le bien-être de ton peuple, je te prie, en ton nom Jésus. Amen. Quand Dieu a créé l'univers, il a fait ça avec une seule volonté, la volonté entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et donc il y avait une unité innée dans la Trinité. Et cette unité, cette gloire qui possède Dieu, un jour, dans l'éternité, Dieu a décidé de créer l'homme à son image. En autre terme, il a voulu partager avec chacun de vous son être. Et vous êtes maintenant dans la vie éternelle. Même ceux qui ne croient pas sont dans la vie éternelle. Il y a ceux qui sont sauvés pour une vie éternelle dans la présence de Dieu. Et les autres qui rejettent cette grâce de Dieu vont se trouver aux enfers pour l'éternité. Quand je pense à ça, et un jour, j'ai parlé avec un collègue, vous le connaissez tous, M. Longeret, J'étais nommé à Marseille auprès de lui. On est de très grands amis. Je sais qu'il a 96 ans parce qu'il a 20 ans de plus que moi. Il me taquinait toujours comme le jeune. Alors, et même aujourd'hui. Alors, je suis heureux d'être ami avec lui. Donc, il dit, mais Hugues, qu'est-ce qu'on va faire dans toute l'éternité? On va s'ennuyer. Je dis, Maurice, il faut que tu lises un peu de cosmologie. Il dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec les cosmétiques? Non, donc Maurice, c'est l'origine de l'univers. Oh, ça me complique la vie trop. Alors, pourquoi j'ai dit ça? Parce que nous ne pouvons pas saisir, ni comprendre, imaginer que ce Dieu infini, éternel, est réservé pour nous. Et puisqu'il est infini et l'éternité n'a pas de fin, jamais vous allez arriver au bout de votre découverte ni votre compréhension de qui est Dieu. Il y aurait toujours quelque chose de nouveau à explorer, à faire. Non seulement la terre va être renouvelée et vos corps ressuscités, mais tout l'univers, le cosmos va être racheté de nouveau. Aujourd'hui, le cosmos souffre au cause de nos péchés parce que nous sommes la couronne de la création de Dieu. Quand Satan est arrivé, quel était son but? Pour le réduire, c'était simple. Il a voulu introduire une volonté qui s'oppose à Dieu. Deux volontés en opposition. Quand Dieu vous a créé dans son image, l'homme et femme, il a voulu que vous soyez d'accord avec lui et les uns avec les autres. Donc ce matin, je vais explorer cinq buts que Dieu avait établi pour vous, les êtres humains. Et en fait, ces cinq buts, c'est lié avec le mariage. Maintenant, je sais qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas se marier, etc. Mais dans la vie, nous pensons au mariage entre un homme et une femme. Je sais que les choses changent aujourd'hui. Je ne suis pas d'accord, pas plus que vous. Mais bon, en parlant d'un homme et une femme. Alors, quel est le principe de base que Dieu a donné à l'homme et la femme, le premier principe, en fait, de refléter la réalité de la Trinité. Parce que Dieu a créé l'homme dans son image. L'image de qui? La Trinité. Trois personnes, un seul Dieu. Un homme et une femme, deux personnes, un seul couple. Et cette unité est dans la diversité. L'unité de la Trinité, unité dans la diversité. Trois personnes, un seul Dieu, deux personnes, un seul chair. Et quand votre couple marche bien, vous êtes unis dans votre volonté. Quand votre couple est en difficulté, c'est parce que vos deux volontés s'opposent. Et quand s'opposent, ce n'est pas agréable. Qui a raison dans ce cas? Et la plupart de nous, puisqu'on est encore pécheurs et on ne veut céder jamais, c'est moi qui ai raison, c'est l'autre qui a tort. Et donc, on est en train d'attrister Dieu, on est en train d'attrister son Esprit Saint. Jésus a prié en Jean 17 pour l'Église, mais ça s'applique au couple. Seigneur, fais en sorte qu'il soit un, comme toi et moi, nous sommes un. Et cette unité, c'est de faire sa volonté. Pas la vôtre, la sienne. J'exagère. Vous pouvez faire votre volonté pourvu que ça corresponde à la volonté de Dieu. C'est un choix que vous faites de faire sa volonté. Quand je parle avec des jeunes couples pour les préparer pour le mariage, je souligne ce principe. Je dis, c'est la base de votre couple. Coûte que coûte, ça vous donne une raison rationnelle à comprendre le mariage, unité dans les diversités, et vous n'avez pas le droit de vous séparer jamais, ni de se divorcer. Parenthèse, je sais que ça existe les divorces, et Dieu pardonne quand on lui demande. Mais pourquoi Dieu a dit ce que j'ai uni, que personne ne sait pas? Pourquoi il déteste tellement les divorces? Ah oui, parce qu'il veut vous voir souffrir? Non. C'est parce que vous reflétez la Trinité. Et si vous vous divorcez, c'est un témoignage devant le monde invisible et visible que l'intégrité de la Trinité pour être éclaté. Vous reflétez cette unité dans chaque choix que vous faites. Si vous décidez de vous séparer, vous êtes en train de dire de manière symbolique que la Trinité peut être séparée. Horreur d'horreur. Seigneur, aie pitié. Garde notre unité dans la diversité pour refléter la Trinité. Premier principe de mariage. Deuxième principe de mariage, Dieu dit, soyez féconds, remplissez la terre. En autre terme, établir une famille. De nouveau, je sais que tout le monde ne peut pas le faire. Je parle dans la normalité de notre monde où les gens se marient pour avoir une famille. Et là, on touche quelque chose qui est très cher au cœur de Tim et moi-même. C'est la notion alliantielle, le royaume de Dieu. C'est Dieu qui nous a choisis. Quand je parle avec des couples aujourd'hui, on est tellement empreint d'individualisme que les gens ne veulent pas imposer leur foi. Ils veulent attendre que leur petite tête blonde décide eux-mêmes pour demander le baptême. Ils veulent attendre que leur petite tête blonde décide de s'engager. Alors, moi j'ai dit, dans la préparation des mariages, sur ce deuxième principe, d'accord, donc ne nourrissez pas votre enfant, laisse votre enfant décider lui-même ce qu'il va manger et quand. N'envoie pas votre enfant à l'école. Laisse cet enfant former son esprit par lui-même. Et quand il est prêt, il va décider ou non. Vous êtes là, vous le regardez comme un objet. Et ne surtout pas imposer votre langue française. Laissez votre enfant choisir la langue maternelle qu'il souhaite. Et comme ça, peut-être il va décider de parler le chinois. Il va grandir avec le chinois. Vous voyez le non-sens derrière ça? Alors, dans le domaine spirituel, vous allez imposer votre volonté. Comme vous imposez votre volonté sur sa nourriture, son éducation et sa spiritualité. Et comment vous allez imposer cette volonté? De même manière que vous imposez la langue, vous parlez français avec lui. De même manière que vous imposez la nourriture qui devient son corps. Vous le mettez le repas sur la table, mange, j'aime pas, j'ai tout le temps de demander si tu l'aimes, tu manges, c'est bon pour toi. J'exagère, mais parfois ça arrive qu'il faut imposer sur les enfants, comme vous le savez. Et j'impose ma foi, parce qu'avant le repas, on va prier. Tout au long de la journée, vous les parents, vous allez parler de Dieu, de manière que vos pensées se tournent vers lui. Ah, regarde ce que Dieu a fait. Dieu est formidable. Et vous savez quelque chose? Quand votre petite tête blonde arrive à 16 mois, je ne sais pas quel moment qu'il commence à parler, et vous tenez les mains, il va dire Jésus, Jésus-même. Parce qu'il a décidé de dire ça. Non. Parce que vous avez inculqué votre foi, sa foi. Et plus tard dans sa vie, devant l'Assemblée, il va témoigner du fait qu'il est reconnaissant qu'il a toujours vécu sous la grâce de Dieu. Et il va remercier ses parents pour la nourriture qui est devenue son corps, l'éducation qui est devenue son esprit et la spiritualité qui est devenue sa foi. Il sera capable, ce moment-là, d'entrer dans la communion de l'Église parce qu'il est capable de s'examiner lui-même. Un peu à un moment donné, nous, les parents, laissons notre enfant amasser, traverser les rues tout seul. Le moment qu'on laisse nos enfants décider ce qu'ils vont manger tout seul. Et nous, les parents, on lance nos enfants dans la vie en faisant confiance à Dieu. Et eux, ils font des choix en fonction de l'éducation reçue. Je sais que c'est difficile d'entendre ça si vous n'êtes pas parmi ceux qui pensent que l'Alliance devrait inclure les enfants parmi le peuple de Dieu. Ma femme m'a donné une bonne illustration. Et tu sais, Hugues, quand les gens sont nés en France, ils ont le droit d'avoir leur carte d'identité. Mais il faut attendre la majorité avant qu'ils aient leur permis de conduire ou leur carte d'électeur. C'est pareil pour nous. L'enfant reçoit le signe de son appartenance au peuple de Dieu. Et plus tard, il prend ses responsabilités en main. Difficile à admettre, mais c'est le deuxième principe que Dieu a donné pour le mariage, fonder un foyer, multiplier un héritage sain, afin que battre la volonté de Satan. Satan prend la main avec haine quand il peut mettre une division dans une famille. Les enfants, c'est notre charge de créer dans les vies de faits qui sont des disciples de Jésus-Christ. Et ça nous donne la raison d'être du mariage. Donc on a deux raisons là. Une raison rationnelle, refléter la Trinité, et une raison d'être, multiplier un héritage saint. Assez pour comprendre le mariage. Puis un troisième principe. Dans ce passage, Dieu dit, je veux que tu sois le vice-gérant pour la création. Vous allez dominer sur les animaux. Le mot domination, c'est un écho négatif, mais la domination de quelqu'un qui est rempli d'amour, c'est autre chose. J'ai dressé un chien pour la tante de ma femme. C'était un grand privilège pour moi de faire imposer ma volonté sur ce chien, dominer sur le chien, pas pour le détruire, afin qu'il soit doux avec cette dame qui était beaucoup plus âgée, la tante de ma femme. Et par la grâce de Dieu, le chien était très facile à dresser. J'ai dominé sur le chien afin qu'il soit obéissant à cette vieille dame. Ce n'était pas bienveillant ce que je l'ai fait. Et alors le Seigneur souhaite qu'on domine sur la création, mais dans la bienveillance que Dieu a manifestée envers nous. Et ça vous invite à réfléchir chaque fois que vous allez toucher la création. Vous allez essayer de refléter de manière analogique la splendeur et les beautés de Dieu. Alors ça veut dire peut-être pendant un repas, vous allez mettre sur la table quelques feuilles que vous avez trouvées dans le jardin, quelques fleurs. Vous allez montrer par les soins que vous prenez de votre maison que vous faites ça pour la gloire de Dieu, sans qu'on est capable de faire ça parfaitement. Vous n'allez pas détruire des choses simplement de manière gratuite. Vous allez utiliser ces choses. Vous allez arrêter de polluer quand vous êtes conscient de cela. Je sais qu'on est dans un monde horrible, avec la pollution partout. Et nous, les êtres humains, on est vraiment foirés de manière qu'on prend soin de la création de Dieu. Et vous dites, ce n'est pas grand-chose, mais les toutes petites choses qu'on fait devant Dieu par la foi, c'est une grande chose pour Dieu. Rien n'est sans valeur devant Dieu. Et vous ne pouvez jamais dire, « Oh, ce n'est pas important. » Tout est important, mais selon vos capacités. C'est important que je chante. Et puisque je chante faux, je ne peux pas dire que ce n'est pas important. Je ne chante pas trop fort, de ne pas déranger les autres. Mais parmi vous, il y a des belles voix. Et vous pouvez chanter fortement. Moi, je ne suis pas du tout un musicien. Et donc, ça ferait du bruit si j'essayais de jouer un instrument. Mais il y a les musiciens. Ils font ça pour glorifier Dieu avec les dons que Dieu leur a donnés. Donc, le troisième but, c'est gérer la création. Et ça vous donne une satisfaction intellectuelle parce que vous travaillez avec votre main et vos mains et votre esprit en présence de Dieu pour le glorifier. Le quatrième but de mariage que Dieu a donné, c'est une satisfaction émotionnelle. En fait, vous devrez recevoir votre conjoint comme un don de Dieu, et Dieu vous fait ce don afin que vous soyez complétés l'un avec l'autre. Il ne fait pas bien que l'homme soit seul. Et vous voyez bien, il y a une différence de nature entre les hommes et les femmes. Bien sûr, l'évidence, c'est notre biologie. Il y a deux genres, mâle et femelle. Je ne comprends pas du tout le discours moderne où ils disent « chacun est libre de choisir son gendre ». Je dis « Hein ? Comment tu peux choisir ton gendre ?» Bon, si tu décides, je vais vivre comme une femme, mais je sais, je suis un homme, ou je suis un homme, je vais vivre, et je suis une femme, je vais vivre comme un homme, c'est votre choix. Peut-être moi, je pense que vous faites erreur, mais peut-être il y a des raisons pour lesquelles vous allez vivre comme ça. En tant que pasteur, je suis prêt à vous accompagner. Mais de dire que tu as choisi d'être un homme et tu es une femme, ou vice-versa, je ne comprends pas. Mais peu importe que je ne comprends pas, peut-être vous, les jeunes, vous êtes plus aptes à comprendre ces choses que moi. En tout cas, se compléter mutuellement, ça veut dire quoi? Vous avez des différences. Imaginons un sablier. Je vais le mettre dans l'air. Mais on va mettre notre sablier à plusieurs niveaux. Et ça continue. Les parois qui sont à part, c'est vos différences dans votre couple. Les parois qui sont proches, c'est vos similitudes. Différentes similitudes, différentes similitudes. Un exemple facile, il y a des gens qui sont extravertis. Et un extraverti, il aime réfléchir à haute voix. Ça ne veut pas dire forcément que la personne croit ou décide ce qu'il vient de dire, mais c'est une manière de réfléchir. Tandis qu'un introverti va réfléchir à l'intérieur de son être avant de formuler une phrase. Ça ne veut pas dire que ce que cette personne a réfléchi est juste non plus. Mais c'est une différence, une préférence de style. Un extraverti peut réfléchir à l'intérieur, un introverti peut réfléchir à haute voix. Mais c'est une préférence que notre personnalité s'impose sur nous. Moi, par préférence, je suis droitier. Il y a d'autres qui sont en préférence gauchier. Je peux m'en servir de ma main gauche, mais je préfère la main droite. Est-ce que c'est mieux? Non, c'est différent. Qu'est-ce qui se passe dans un couple où la harmonie règne? L'extraverti parle, l'introverti écoute et formule une réponse. Et peut-être l'après-midi, ils avaient décidé d'aller faire une balade dans la campagne, main en main, ou dans les rues de Marseille, fin de journée, comme Hugues et Martine font. On tient les mains, on marche et les gens sourient. Regardez ces petits vieux. Je suis un long vieux et un petit vieux. Et on trouve plaisir d'être ensemble. Mais au cause de notre nature pécheresse, qu'est-ce qui se passe? L'introverti peut dire « tu parles trop ». L'extraverti peut dire « tu ne parles jamais ». Et donc il y a une friction. « J'ai pas envie de sortir avec toi cet après-midi ». Moi non plus, mais chacun boude les côtés. Et on met une pression sur les parois de nos différences. Et puisque c'est un système clos, ici où il était proche, se sépare. Et en tant que pasteur depuis 50 ans maintenant, je vois des couples qui vivent comme deux lignes parallèles. Ils ont perdu cette différence, ce beau courbe qui existait au départ de leur couple. Quand les gens sont avec des préférences différentes, ils sont appelés de garder l'unité dans la diversité et ne pas s'imposer sur l'autre et ne pas chercher à transformer l'autre dans son image. Parce que quand on fait ça, par amour, peut-être l'autre va céder. L'extraverti va parler moins contre sa propre nature. L'introverti va faire un effort de parler plus parce que l'un et l'autre sont en train de tirer la personne dans son image plutôt de respecter les différences. Encore, quand je parle avec des jeunes couples, je multiplie les exemples dans ce domaine. Mais cette complémentarité évolue par Dieu. Et c'est une satisfaction émotionnelle. Mais je voudrais aussi souligner un autre point important, différence mâle-femelle. Adam a été créé par Dieu en première, Ève après. Mais il y avait une interlude. Quelle était cette interlude? Dieu a dit à Adam, j'ai un travail pour toi. Nous, les hommes, on aime bien que quelqu'un me donne un travail. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Surtout si c'est un travail avec mes mains, je vois les résultats. Et il dit, je veux que tu nommes les animaux. Dieu fait venir les animaux. Question, est-ce que de nommer les animaux, c'était une affaire de 5 minutes pour Adam? Je ne crois pas. C'est une spéculation de ma part. Est-ce que c'était plusieurs heures? Je ne crois pas. Plusieurs jours? Non. Des mois? Je ne crois pas. Je pense que c'était quelques années. Parce qu'il a fallu explorer, regarder, comprendre les habitudes, le changement des saisons peut-être dans le jardin d'Éden, pour comprendre, afin de donner un nom qui corresponde à la nature de chaque animal. Et Dieu a donné ce charge à Adam. Et ce qui est formidable avec ça, pour la première fois dans l'histoire de toute l'éternité, Dieu, faisant l'homme dans son image, a donné la possibilité pour quelqu'un autre que lui d'inventer quelque chose qui n'a jamais existé avant. Donc Adam termine son travail, il revient à Dieu, il dit, j'ai terminé. Dieu dit, oh, bien, dis-moi ce que tu as trouvé. Il donne le nom des animaux et Dieu prononce quelque chose, c'est très bien. Tout ce qu'il a fait était très très bon. Alors Adam a reçu le même compliment que Dieu avait gardé pour lui-même avec sa création. Et ensuite Adam dit, mais je ne comprends pas quelque chose. Dieu dit, c'est vrai. Il pose des questions, pourquoi? Mais regardez bien, il y a le pourquoi tu as fait ceci, pourquoi tu n'as pas fait cela. Ce n'est pas ce type de pourquoi. C'est le pourquoi d'un enfant qui ne comprend pas. Il dit, Seigneur, tu crois. Il n'a pas dit ça vocalement, mais c'était compris, sans son pourquoi. Toi, tu ne corresponds pas à ma nature. Dieu qui était là dans le jardin. Les animaux non plus. Donc j'ai un vide. Et vous imaginez, Dieu il dit, je t'ai créé parfait avec un vide, avec un besoin. Et maintenant, tu comprends qu'il n'y a rien qui corresponde à ton besoin. Dors. Il se relève, et qui est là? Ève. Et Adam est dans la joie, il dit, ah, c'était mes os. Et il a accepté Ève comme un cadeau de Dieu. Il avait un choix de dire, oh, je ne veux pas ça. Il avait un autre choix, c'est pas mal comme prototype, fais-moi d'autres prototypes et je choisirai entre les différents prototypes. Mais puisqu'il était dans une relation avec Dieu qui a une certaine date, il avait tellement confiance en lui, il savait que Dieu l'avait créé pour lui parfaitement, qui correspond à ses besoins. Mettez maintenant votre dans les baskets d'Ève. Je sais, il n'y a pas les baskets à ce moment-là. Ève est là, elle n'a pas protesté, elle dit, oh les gars, oh, écoutez, je suis là, oh. Me traiter comme un objet, qu'est-ce qu'il y a là? Il y a Adam et Dieu qui parlent de moi? Non, par un acte d'intuition, elle savait instantanément qu'elle était créée pour se donner à Adam. Elle n'a pas demandé de vivre avec lui, elle n'a pas demandé un autre prototype non plus. Elle acceptait par un acte d'intuition. On voit une différence. Et je vis ça avec ma femme, elle voit des choses que je ne vois pas. C'est elle qui m'habille. Quand j'étais jeune et stupide, et lent à comprendre, pendant les premiers 20 ans de notre vie en commune, qui est maintenant 53 ans, pendant cette période, je me suis habillé le matin pour aller au culte, pour sortir. Je dis, tu ne peux pas sortir comme ça. Je dis, pourquoi pas? Ça ne va pas bien ensemble. Eh, c'est pas grave, si, je le vois bien. Non, je ne te laisse pas sortir comme ça. Parce que ça me fait honte de te voir comme ça. Mais ce n'est pas important. Si c'est important, tu es pasteur, arrête. Donc, imposer sa volonté, j'ai accepté, je ne comprends rien. Au bout d'à peu près une vingtaine d'années, le Seigneur m'a accordé plus de sagesse d'écouter ma femme. Donc, j'ai mis mes vêtements sur le lit. J'ai dit, est-ce que je peux porter ça ou non? Ce matin, il a fallu se lever un peu plus tôt pour venir ici. Et ma femme était en train de faire sa toilette et j'ai dit, écoute, j'ai besoin de toi. Est-ce que je peux porter cette cravate avec ça et ça, que ça va bien ensemble? Je parce que je suis tellement traumatisé, non, j'ai tellement confiance en elle, elle me dit, oui, tu peux. Mais la semaine dernière, j'avais choisi une cravate. Elle dit, non, tu peux pas. Qu'est-ce qu'il y a de couleur? Non, non, c'est pas de couleur, c'est trop voyant pour un pasteur. Ah, d'accord. Donc, elle a toutes sortes de critères, elle veille sur moi pour le bien-être du royaume de Dieu. Et j'imagine qu'il y a quelques hommes ici qui disent, tiens, ma femme fait pareil avec moi. Et parfois, je n'écoute pas. Ah, je suis bête. Il faut que j'écoute ma femme un peu plus souvent. Ah. Se compléter vous donne une satisfaction émotionnelle. Parce que quand le couple fonctionne bien, vous êtes en harmonie, de même volonté. Et c'est un sujet de grande joie et réconfort pour vous. Vous connaissez ces études. Vous allez vivre plus longtemps. Parce que vous êtes un avec quelqu'un. Et le cinquième but que Dieu établit, c'est le but le plus compliqué à expliquer, parce que l'apôtre Paul nous dit c'est un mystère. Christ et l'Église, c'est un mariage, c'est lui notre époux, nous sommes son épouse. Christ a donné sa vie comme époux pour sanctifier, pour donner une sûreté à son peuple. Nous les hommes, nous sommes appelés donc d'imiter Christ, de donner sa vie pour protéger notre famille. Notre fille aînée n'était pas toujours facile avec nous, les parents. Elle avait 17 ans. J'arrive après mes visites et après une journée. Et Martine me dit, il faut que tu fasses quelque chose avec Laurence. Elle est impossible. Je frappe à sa porte. « Papa, je suis content de te voir, il faut que tu fasses quelque chose avec maman. Elle est impossible à vivre. » Donc, je suis entre les deux. Donc, j'ai prié. Seigneur, au secours. Amen. J'ai dit, voilà, voici, Laurence, ce que je vais te dire. Quand tu entends la voix de ta mère, ma voix est derrière. Si tu dis non à ta mère, tu vas payer avec une punition que je vais t'infliger, moi. Tout ce que ta mère a à te dire, tu dis oui, maman, et avec le sourire de reconnaissance. Bon, d'accord, peut-être pas avec le sourire de reconnaissance, ça c'est entre toi et Dieu, mais tu vas obéir à ta mère, sinon tu vas être puni. Et je ne savais pas quoi dire de plus. Et ça marchait, elle a commencé à obéir. Une autre fois, ma fille a dit, « Voilà, je vais sortir voir mon copain. » J'ai dit, « Mon copain. » J'ai dit, « Mais tu ne peux pas sortir comme ça, il faut qu'il se présente à la porte. »« Oh, papa, ça ne fait plus ça. » J'ai dit, « D'accord, tu ne sors pas. »« Papa, ça ne fait plus. »« D'accord, tu ne sors pas. »« Papa, oui, ma chérie, tu veux sortir, il doit frapper la porte. » Quelques minutes plus tard, mon petit frappe à la porte. J'ouvre, je dis, « Ah, vous êtes le copain de ma fille, viens, assis-toi. Vas-y, Lance, prépare-toi. » Vous imaginez, cette omelette était tremblante. Et moi, je dis, « J'ai une question pour te demander, une seule question. Et après, j'ai quelque chose d'imposé sur toi. Supposez, quand vous sortez là dans notre chère ville de Marseille, il y a un banc de jeunes qui vous interpelle. Est-ce que tu vas placer ton corps entre ma fille et ce banc de jeunes? Parce que jusqu'ici, moi, j'ai protégé ma fille. Est-ce que tu vas le faire? Et est-ce que tu vas serrer la main et donner ta parole? Parce que je suis en train de te traiter comme un homme. Et ta parole compte pour beaucoup. Et juste une petite parenthèse. Si toi, tu es un lâche et un poule mouillé, je vais venir te chercher avec ma batte de baseball et je vais casser tes genoux. Bon, en tant que chrétien, je n'aurais pas fait. J'ai voulu imposer un peu le style new-yorkais, là, marseillais, pour faire appel qu'il y a une certaine crainte à voir. Il dit, est-ce que tu es d'accord? Oui, monsieur, c'est à ma main. Et j'impose quelque chose. Il faut que ma fille soit là 23h30, pas plus tard. Autrement, c'est terminé. C'est à ma main pour dire oui. Un petit post-scriptum. tu n'es pas obligé de parler avec ma fille de cet échange, c'est entre nous deux. Allez, vous amusez. » Le lendemain, je demande à ma fille, « Comment c'était passé ?»« Papa, tu sais que mon copain, il t'aime beaucoup. Il pense que tu es pas mal comme papa. » Et alors, qu'est-ce qu'il a dit? Oh, il n'a pas voulu me le dire. Et tu as demandé, il dit oui, mais il avait l'autorisation de toi de ne pas partager, il n'a pas voulu. Il dit très bien, tu as trouvé quelqu'un de valeur, c'est bien. Bon, c'était une série, hein, bon, bref. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que Dieu, notre Père, il est comme ça, il est jaloux pour nous. Il est là pour nous protéger. Quand Dieu a fait Adam dans son image, il était là pour que Adam chérit Ève, qui partage ses trouvailles avec Ève, et que Ève soit dans le respect, dans l'admiration, en train de découvrir sous la tutelle de son mari, afin qu'elle puisse élargir et utiliser ses propres dons comme une fleur qui va s'ouvrir. 5 buts. Refléter unité et diversité dans la Trinité, ça vous donne une satisfaction rationnelle. 2e but, refléter, créer une famille, multiplier un héritage saint, ça vous donne une raison d'être pour un mariage. 3e but, gérer la création, vous donne une satisfaction intellectuelle. 4e but, se compléter mutuellement, satisfaction émotionnelle. 5e but, refléter le Christ et l'Église, unité, et la manière que Christ a donné sa vie, la manière que l'Église vit pour le Christ. Tout cela sont des raisons d'être, et pour le faire, vous le faites pour la gloire de Dieu, parce que c'est sa volonté. Et à cause du Christ qui habite en vous, vous avez le désir de le faire. Vous n'avez plus le désir d'imposer votre volonté. Vous avez le désir d'être doux et humble, en faisant la volonté de Dieu. Jusqu'ici, la parole de Dieu, prions. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole, pour le privilège qui est le nôtre de le réfléchir. Et Seigneur, nous te prions afin qu'on puisse garder ce que tu as dit au fond de nos âmes et nos cœurs, et que ainsi notre pensée va être transformée, et nos couples vont s'améliorer, et les gens vont nous regarder avec interrogation, comment se fait-il qu'ils sont joyeux et reconnaissants, ce couple, et va pouvoir témoigner de qui tu es. Seigneur, veuille bénir chacun ici, par ta parole, par ton esprit, pour ta gloire et la sanctification. Amen.